Donc, ce soir, on va parler de la paramétale d'éthique. Le mois dernier, on avait vu la paramétale de la générosité. Et là, il s'agit de parler de la paramétale d'éthique. Donc, je vais vous lire la strophe. La 26e strophe décrit la perfection de la conduite éthique. Si manquant de discipline, nous échouons même à accomplir notre propre bien, le souhait de réaliser celui d'autrui est une plaisanterie. Maintenir notre conduite éthique sans désirer une existence mondaine est par conséquent la pratique d'un bodhisattva. Alors je vous la relis. Si manquant de discipline, nous échouons même à accomplir notre propre bien, le souhait de réaliser celui d'autrui est une plaisanterie. Maintenir notre conduite éthique sans désirer une existence mondaine est par conséquent la pratique d'un bodhisattva. Voilà, alors on a reçu il y a 15 jours un maître tibétain qui habite à Marseille, qui s'appelle Mochok Rinpoche, et qui est venu enseigner au centre bouddhiste des Vosges. Et en fait, il a parlé que de ça. Donc les gens qui étaient déjà là, il y aura peut-être des répétitions, parce que du coup, je m'appuie énormément sur cet enseignement-là qui est tout frais. Parce que voilà, il a beaucoup parlé de l'éthique. Alors l'éthique dans le bouddhisme, c'est comme pour la générosité, ça part d'abord d'une compréhension, c'est-à-dire d'un état d'esprit, une compréhension de ce qui est source de souffrance pour soi-même et pour les autres, et de ce qui est source de bonheur pour soi-même et pour les autres. Et à partir de cette compréhension, on va en faire usage. Et l'usage de cette compréhension, c'est ce qu'on appelle la conduite éthique. Et donc d'abord, comprendre qu'est-ce qui est source de souffrance, qu'est-ce qui est source de bonheur. Et l'éthique bouddhiste, ça pourrait se résumer à une seule phrase, c'est renoncer à l'intention de nuire aux autres. Renoncer à l'intention de nuire aux autres. Alors cette phrase, on peut vraiment la retenir parce que dans cette phrase-là, tout est inclus. Ça inclut tous les préceptes bouddhistes, tous les vœux des moines, les vœux des laïcs, les vœux de bodhisattva, tous les préceptes bouddhistes peuvent se résumer à cette phrase, renoncer à l'intention de nuire aux autres. Et quand on parle de renoncement dans le bouddhisme, il s'agit de ça. Il s'agit de ce renoncement-là. Renoncer à l'intention de nuire aux autres. Parce que souvent, voilà, on a une conception de ce que c'est que le renoncement, et parfois on dit des trucs comme ça à l'emporte-pièce. Mais le renoncement en bouddhisme, c'est ça, c'est renoncer à l'intention de nuire aux autres. Et voilà, je cite souvent cet exemple, c'est pas renoncer à se resservir de tarte parce qu'elle est bonne. Parce que souvent, voilà, on peut entendre ça, ah, non, pour un moine, tu te resserres de tarte et tout ça, bravo le renoncement. Et il ne s'agit pas de ça. Sauf si, dans le fait de me resservir de tarte, je ne prends pas en considération que l'autre, il n'en a pas eu. Donc si je me resserre de tarte, il n'en aura plus. Et là, on parle de renoncement. D'ailleurs, parce que je renonce à mon plaisir ça porte préjudice à quelqu'un. Là, on peut parler de renoncement. Bah oui, je prends en conscience que j'ai envie de me resservir de tarte, mais que l'autre n'en aura plus. Donc là, oui, je prends en considération l'autre et je choisis de renoncer. Mais ce n'est pas au plaisir de la tarte. Enfin, bon, c'est un exemple qui vaut ce qu'il vaut. Hein. Mais voilà, parfois on entend des choses quoi. Comme ça, le renoncement, il ne s'agit pas de renoncer au plaisir dans le bouddhisme. Quand on parle de renoncement, c'est renoncer à l'intention de nuire aux autres. Et voilà, ça inclut tout. Et nous, on est aussi dans une école particulière, qui est l'école du Mahayana, où on ne va pas simplement s'efforcer de renoncer à l'intention de nuire aux autres. En plus, on va essayer de faire tout, de mettre tout en œuvre pour aider les autres, pour créer des sources de bonheur pour les autres. Voilà. Et donc il faut bien comprendre que l'éthique dans le bouddhisme est très différente de la notion de morale. comme on l'avait vu aussi pour la générosité, l'éthique et la morale, c'est deux choses différentes. La morale, ça se base sur des notions de bien et de mal, en absolu, dans une parenthèse donnée, selon des critères religieux, selon des critères sociaux, selon des critères culturels, on va définir voilà, ce qui est acceptable, ce qui n'est pas acceptable. Voilà, dans la société, voilà, il y a ce qui est acceptable aux yeux de la société et ce qui ne l'est pas. Voilà, des notions de bien et de mal, alors que l'éthique bouddhiste, ces notions-là, elles n'existent pas. En fait, on va parler de ce qui est vertueux et ce qui est non vertueux. Quand on parle de ce qui est vertueux, c'est vertueux à quoi? Vertueux à l'éveil. Qu'est-ce qui a le pouvoir de me conduire vers l'éveil, vers le bonheur? Donc ce qu'on entend par éveil, c'est plus de lucidité. Qu'est-ce qui va me permettre de déraciner l'illusion? Qu'est-ce qui va être vertueux à me désillusionner? Et donc vertueux à m'apporter le bonheur et à apporter le bonheur aux autres. Et de la même façon, bah, non vertueux qui n'a pas le pouvoir de me désillusionner, qui n'a pas le pouvoir de me conduire vers l'éveil. Donc c'est vraiment une histoire d'efficacité en fonction de notre objectif. Notre objectif, c'est de nous éveiller pour être plus lucide et pour être plus heureux, plus en paix. Et voilà, il y a ce qu'on définit comme vertueux à ça et non vertueux à ça. C'est pas, voilà, c'est pas, donc c'est en ça que c'est différent de la morale. Il y a ce qui est bien, il y a ce qui est mal, parce que Bouddha l'a dit, parce qu'il y a un dieu qui l'aurait dit, parce que non, c'est, voilà, on a une démarche, c'est s'éveiller, et bah, dans ce projet, qu'est-ce qui va m'aider à m'éveiller et qu'est-ce qui ne va pas aboutir à ce projet-là. C'est de ça qu'on parle quand on parle d'actes négatifs et d'actes positifs. C'est vertueux à l'éveil ou pas. Donc, voilà, il faut bien comprendre que l'éthique, c'est une histoire d'efficacité. Et dans l'éthique, on va nous parler d'une... On va voir une trame de base. Alors d'abord, on va dans notre projet de renoncer à l'intention de nuire aux autres, on va nous inviter à observer qu'est-ce qui fait obstacle à ce projet-là. Et ce qui fait obstacle à ce projet-là, dans le bouddhisme, on va parler de trois poisons de l'esprit, sous l'emprise desquels on perd le contrôle. Donc on est emporté par ces poisons et donc du coup, on ne contrôle plus nos actes et nos paroles. On est sous leur emprise. Alors, ces trois poisons de l'esprit, le premier, c'est ce qu'on appelle l'ignorance, opacité mentale. Et de ce poison-là, qui est le poison principal, va découler le désir attachement et la colère aversion. Alors, le premier, l'ignorance, c'est vraiment le poison fondamental. Le poison duquel découlent tous les autres. Et l'ignorance, c'est le fait de ne pas voir les choses telles qu'elles sont. En fait, c'est le fait de voir les choses de manière conditionnée, mais pas directement. On est conditionné et donc du coup, on a une vue sur les choses qui est erronée, une vue sur les choses qui est faussée, une vision brouillée. De cette ignorance, il va y avoir deux conséquences, la plus grossière et la... C'est tout simplement qu'on cherche tous le bonheur, mais du fait de ne pas voir les choses clairement, eh ben on ne sait pas qu'on cherche le bonheur dans la mauvaise direction. Parfois, en fait, on prend pour cause de bonheur des causes de souffrance, et inversement, des causes de souffrance pour cause de bonheur. Pourtant, on a tous ce projet-là d'être heureux, mais ne voyant pas les choses clairement, ben on se trompe dans la manière d'orienter notre recherche de bonheur. Ça, c'est l'aspect le plus grossier. Et ensuite, l'aspect le plus subtil, c'est le fait de ne pas reconnaître la nature de notre esprit, de ne pas reconnaître la nature des phénomènes. Tout simplement, on ne le regarde pas assez profondément, donc on a une idée sur comment les choses sont, comment les choses fonctionnent, et une idée sur ce que nous sommes. Mais cette conception de nous-mêmes, elle est basée sur des vues, des conclusions trop hâtives. On n'a pas observé... profondément ce que nous sommes, donc on a conclu trop vite. Et du coup, ça laisse place à plein de malentendus. Voilà, donc ça, c'est pour l'ignorance. Et donc le fait de voir les choses de manière illusionnée, ça va conduire à polariser l'expérience entre ce qui est bon pour moi, mauvais pour moi, ce qui est agréable, désagréable, plaisir, déplaisir. Et en fait, voilà, on va rechercher le bonheur dans ce qui est agréable, bon pour moi, ce que je juge bénéfique pour moi, et ce que je juge négatif pour moi, ben, je vais m'efforcer soit de le fuir, soit de le détruire, etc. Et on va parler de désir-attachement. Pour le premier, et là c'est pareil, l'attachement ça a une définition qui est très précise dans le bouddhisme, et c'est souvent, voilà, avec des problèmes de traduction, ça n'a pas forcément la même définition que telle qu'on l'entend nous en Occident, l'attachement. L'attachement en fait c'est le fait de confier aux objets, à un objet, à une chose, à une situation, la tâche de nous rendre heureux. C'est ça qu'on appelle l'attachement. Confier à une chose la tâche de nous rendre heureux, le devoir de nous rendre heureux. Une chose, une situation, une relation. Et dès lors qu'on a ça, en fait, ce qui s'installe, c'est qu'on pense que on est dépendant de cet objet, ou dépendant de cette personne, des situations, pour être heureux. Voilà, notre bonheur dépend de quelque chose d'extérieur à nous-mêmes. Et c'est très différent de ce qu'on appelle, nous, l'attachement, par exemple, être attaché à sa compagne, à son compagnon, à ses enfants. Voilà, l'attachement affectif, quoi, qui est tout à fait normal, tout à fait naturel, etc. Mais dans le bouddhisme, l'attachement, voilà, il y a eu un problème de traduction, donc parfois c'est un peu mélangé. C'est autre chose quand on parle de l'attachement dans le bouddhisme, il s'agit vraiment d'une névrose. C'est voilà, on peut aimer une personne, mais en plus, on signe avec cette personne, ben, quand on décrète que cette personne doit me rendre heureux, ben, on signe un contrat d'attachement. Je t'aime, donc prouve-moi que ça vaut le coup que je t'aime, en me rendant heureux. Voilà, ça peut se traduire par des choses comme ça. On instrumentalise la personne. Du coup, ça conduit à l'aliénation. L'aliénation, dans l'aliénation, il y a lien. Alors on crée un lien, un contrat d'attachement. Je t'aime, donc prouve-moi que j'ai une bonne raison de t'aimer. Voilà, c'est un peu tordu. Alors évidemment, ça peut aller jusque-là dans l'amour qu'on porte à ses enfants ou à son compagnon. Il peut y avoir un attachement dans le sens névrose du terme. Mais à nous de faire la distinction. Mais quand Lamad Sutri me dit... avant de travailler sur l'attachement à votre conjoint ou à vos enfants, travailler sur l'attachement sur les petites choses, lui, il entend l'attachement dans le sens bouddhiste du terme. Alors que nous, on se dit, quoi, ça veut dire qu'en tant que bouddhiste, on ne doit plus être attaché à ses enfants. Voilà, il y a un problème de traduction, un problème de mots, donc il faut faire attention au langage. Quoi. Voilà, c'est ça l'attachement. C'est... On rend l'extérieur dépendant de notre bonheur. Non, c'est pas ça. Oui, on s'est compris. Voilà, notre bonheur dépend de l'extérieur, de quelqu'un, d'un objet, etc. Et là, il y a contrat. Contrat d'attachement. Et l'autre poison de l'esprit, c'est ce qu'on appelle la colère-aversion. Et la colère, c'est quelque chose. Pour pouvoir travailler sur la colère, il faut comprendre en quoi la colère ne nous aide pas, en quoi la colère est un problème. Dans le bouddhisme, il n'est pas question de ne pas se mettre en colère parce que le Bouddha l'a dit. Parce que, faut pas se mettre en colère. Je suis bouddhiste, donc faut plus se mettre en colère. Je dois plus me mettre en colère. C'est pas ça. C'est... Le bouddhisme, ça nous invite à une réflexion. C'est d'abord, si on veut travailler avec la colère, bah c'est parce qu'on a réfléchi là-dessus et on décrète que non, la colère ne m'aide pas dans mon projet d'être heureux. Et c'est ça qui est difficile avec la colère, parce que justement, la colère, ça se présente comme un ami. Ça se présente comme une aide. Notre conception qu'on a de la colère, la plupart du temps, bah, pourquoi c'est difficile de travailler dessus? Parce qu'on considère qu'elle nous aide à sortir des situations, à gérer des situations. Tant qu'on ne voit pas le problème négatif de la colère, il n'y a pas de raison de travailler sur la colère. ne va pas travailler sur la colère parce qu'on nous a dit ah, c'est pas bien de se mettre en colère. Parce qu'on entend voilà, des choses comme ça souvent. Ah oui, donc vous les bouddhistes, vous ne mettez jamais en colère. Ah non, tu te mets en colère, bravo, pas en bouddhiste. Voilà, jugeons. Non, non, en fait, c'est vraiment un travail qui est personnel. C'est, ça ne regarde que nous, c'est notre travail. Mais on ne peut faire ce travail que si on considère que la colère est un problème en soi. Et par contre, les maîtres sont catégoriques. C'est-à-dire que la colère est considérée comme un véritable poison. Donc on nous invite, avec des grilles de lecture, voilà, sur les aspects négatifs de la colère, à faire cette observation. Et donc, voilà, il y a des observations à faire. Alors on nous dit par exemple que la colère... déjà, la première chose qu'on peut observer quand on est sous l'emprise de la colère, c'est un résultat immédiat. C'est que si auparavant il existait un état de tranquillité, de sérénité, et ben, au moment où naît la colère, on est sous l'emprise de la colère, ça disparaît. Ça c'est quelque chose qu'on peut noter, c'est qu'on est plus serein sous l'emprise de la colère. La paix disparaît, la paix de l'esprit disparaît. Ensuite, que la colère, ça rend les choses plus fades. C'est-à-dire, si on avait l'habitude voilà, d'avoir de l'attrait pour certaines choses, sous l'emprise de la colère, tout devient plus fade, sans goût. On n'éprouve plus le même attrait pour les choses qui d'habitude nous réjouissaient, etc. Que la colère... sous l'emprise de la colère, on peut en perdre l'appétit. On peut en perdre le sommeil. Voilà. Non, Alors, après, c'est des listes à rallonge. Hein. J'en donne quelques-unes comme ça, mais voilà, c'est des... Chacun, il y a à boire et à manger. Mais l'idée, c'est que pourquoi on nous fournit ces descriptions traditionnelles, bah, c'est pour que chacun puisse voilà, nous donner une piste d'observation quoi, de tout ce que les ravages que peuvent provoquer la colère. Que la colère, bah, au niveau de l'entourage, ça a tendance à éloigner l'entourage. C'est-à-dire que quelqu'un qui se laisse aller continuellement à la colère, bah, ça brise l'harmonie entre les couples, ça brise l'harmonie avec les proches. Les proches finissent par s'éloigner. Que ça brise, bah, voilà, ça pose des problèmes avec les voisins, le voisinage, l'entourage, etc. Que la colère fait de petits problèmes des gros problèmes. On peut avoir un différend avec un voisin. Sous l'emprise de la colère, on s'emporte. Et du coup, on peut finir devant les tribunaux. Parce que, ben voilà, un mot de trop, on se laisse emporter, on n'a plus de contrôle, etc. Ben, ça peut être les résultats de la colère. Faire de petits problèmes, des gros problèmes. On dit aussi que la colère pose des problèmes de santé à la longue. Dans le bouddhisme, on parle de quatre grands éléments du corps qui sont en équilibre et que le fait de se laisser aller à la colère, bah, ça provoque un déséquilibre dans ces éléments, notamment un excédent d'éléments R qui fait que bah, ça perturbe l'équilibre et donc du coup, bah, on finit par avoir des problèmes de santé, des choses comme ça. Et le pire, alors ça c'est quand on admet les existences futures. Dans le bouddhisme, on considère que la mort n'est pas une fin en soi, que la mort, c'est la mort du corps. C'est que le corps ne devient plus un soutien valide pour la conscience, et donc du coup, bah, il se dégrade, mais que la conscience, elle continue. Donc du point de vue bouddhiste, cette vie-là n'est pas une fin en soi. Enfin, la mort dans cette vie-là, c'est pas une fin en soi, ça va continuer. Et que la colère, non seulement elle a des effets négatifs, elle fait des ravages, enfin voilà, elle peut avoir des conséquences négatives pour cette vie-là, mais en plus, elle se perdure dans les autres vies, dans le sens où on la compare à un feu de forêt qui brûle toutes nos racines de vertu. C'est-à-dire tout ce qu'on a pu planter de graines positives, eh ben, on ne verra pas leurs fruits parce qu'il suffit d'un instant de colère pour que ça disparaisse. Toutes ces graines de vertu, c'est ce qu'on appelle le mérite dans le bouddhisme. Et c'est pour ça qu'on le compare à un feu de forêt, dans le sens où une forêt, ça peut mettre des années à pousser, 50, voire 100 ans pour qu'une forêt se constitue. Et il suffit d'un brasier pour qu'en quelques heures, bah, tout soit calciné. Donc tu vois, la colère, c'est, Voilà, ça peut brûler toutes nos racines de vertu qu'on peut avoir mis du temps à mettre en place. Et en plus, Mochok Rinpoche rajoutait que il y a un effet aussi de la colère qui est similaire à la cause, c'est que quand on se met en colère, eh ben on devient pas beau à regarder, voilà, parce qu'on a des traits qui se tirent, parce qu'on devient rouge, et que donc du coup, bah, dans nos renaissances futures, même si elles sont favorables, eh ben on renaîtra pas très beau. Et là, il dit, bah, voilà, vous voyez, il y a des animaux, ils sont tout mignons, alors, rien que le fait de les regarder, bah, on est tout attendri et tout ça, on les trouve super mignons. Bah, il y a d'autres animaux, leur seule vue suscite l'effroi. Bah, ça, c'est le résultat de la colère. À la tibétaine. Voilà, donc c'est... Effectivement, pourtant, la colère se présente comme un ami. C'est-à-dire que bah, voilà, on a l'impression qu'elle nous sort des situations. Et oui, d'un certain côté, de manière temporaire, parfois, ça nous soulage de quelque chose. Ça peut régler les situations, mais en fait, du point de vue bouddhiste, être emporté par la colère, on n'a aucune maîtrise. Et ça cause des ravages, même voire à long terme. Donc ça, c'est les poisons de l'esprit qui sont considérés comme un obstacle quand on veut pratiquer l'éthique, c'est-à-dire renoncer à l'intention de nuire aux autres, parce que sous l'emprise de ces poisons-là, ben justement, on n'est pas libre. On n'est pas libre de notre parole, libre de nos actes. On ne peut pas forcément dire ce qu'on dit, hein, souvent, quand on est en colère, on dit des choses qu'on ne pense pas. Ça nous arrive de dire des choses qu'on ne pense pas. Ben, c'est un peu l'idée, quoi. C'est on n'a plus le contrôle. On perd le contrôle. Et pour travailler sur ces poisons de l'esprit, l'éthique nous invite d'abord à tout simplement avoir les zones sur lesquelles on peut travailler et les zones sur lesquelles on ne peut pas d'emblée travailler. Il y a des circonstances, il y a des circonstances dans la vie, des situations sur lesquelles on part systématiquement au quart de tour. Ça fait naître des poisons trop forts dans l'esprit. Colère trop forte, trop d'aversion, trop d'attachement, trop d'avidité, et sur lequel, de toute façon, on sait qu'on va partir au quart de tour. Et savoir le reconnaître, en fait, ça va nous permettre d'abord de savoir se couper aussi de certaines situations, quand on le peut, dans la mesure du possible, reconnaître ces situations-là et faire en sorte de se couper avec des objets qui suscitent trop de colère, trop d'aversion ou trop d'attachement. Ça, c'est la première façon de pratiquer l'éthique. Donc, c'est très cartésien. Tous les vœux de moines, ça s'appuie là-dessus, en fait. Tout simplement, se mettre en quarantaine de ce qui pourrait provoquer des poisons trop forts dans l'esprit. L'idée, c'est de mettre le fauve en cage pour l'apprivoiser. J'aime bien cette image. Mettre le fauve en cage, dans un premier temps, pour l'apprivoiser. Et tranquillement, ça... travailler sur des situations plus faciles, plus malléables, sur lesquelles on a encore pied. Voilà, et Mochok Rinpoche nous disait, ben voilà, on a chacun un profil particulier. Dans le monde des humains, on parle de... Les humains donc renaissent dans ce qu'on appelle le monde du désir. Et notre conscience, en fait, elle se déploie en 5 facultés sensorielles, 5 portes sensorielles, et donc on perçoit 5 objets des sens. Les formes, les saveurs, les sons, les odeurs et le toucher. Et selon ce qu'on est, par la méditation, c'est-à-dire par le fait d'observer ce que telle ou telle situation fait naître dans notre esprit, on peut reconnaître qu'on va avoir tendance à peut-être avoir plus d'attachement en général dans ce qui relève de la forme ou dans ce qui relève de des sons. Alors que d'autres personnes, bah, ça va être plutôt le domaine des saveurs, la bonne cuisine, les odeurs, etc. Voilà, voir en fait dans quel domaine on est plus susceptible d'avoir trop de poisons qui naissent dans l'esprit. Et ça, c'est la méditation qui va nous permettre de faire ça. Donc, quand je parle de méditation, je parle de vraiment la méditation véritable, c'est-à-dire pas seulement le fait de l'entraînement sur le coussin, c'est après le fait d'être capable de reconnaître tout ce qui se passe dans l'esprit, à la fois à l'intérieur qu'à l'extérieur. Capable de reconnaître précisément en contact, voilà, je suis en contact avec tel objet, telle situation, qu'est-ce que ça fait naître dans mon esprit. Et voir éventuellement, ben voilà, quand est-ce que ça déclenche facilement des poisons trop forts. Et de là, ben, savoir se préserver, savoir se couper de certaines situations quand on sait qu'on ne va pas pouvoir gérer. Alors souvent, voilà, c'est traduit, la conduite éthique, c'est traduit par le mot discipline. Voilà, il y a ce côté un peu, ça peut être perçu comme un carcan, une brimade. Et c'est pas, il ne faut pas le voir comme ça, il ne faut pas voir l'éthique comme ça. Il faut voir plutôt l'éthique comme une protection. Comprendre que quand on pratique l'éthique, quand on pratique cette discipline-là, c'est pour se protéger. C'est pour se protéger soi-même et c'est pour protéger les autres. On dit que quelqu'un qui pratique l'éthique, qui est porteur d'une éthique, et ben en fait, il va devenir au fur et à mesure de plus en plus bienveillant. Parce que voilà, on prend en considération la souffrance de l'autre. Donc on devient bienveillant et devenant bienveillant, l'aboutissement de l'éthique, c'est qu'on va jouir du respect des autres. Parce que on finit par devenir quelqu'un sur qui on peut compter, en qui on peut avoir confiance et si aujourd'hui on peut observer beaucoup de souffrance, beaucoup de violence et de peur dans le monde, Mochok Rinpoche, voilà, il y a 15 jours, il me disait, c'est parce que justement il y a un manque d'éthique. Manque d'éthique, ça veut dire que voilà, des personnes qui ne prennent pas en considération l'autre, qui ne. Voilà. Et donc du coup qui portent atteinte à l'intégrité physique d'autrui, qui s'emparent de ce qui ne leur appartient pas, on pille les ressources de la planète voilà, sans prendre en considération, voilà, on épuise les ressources alors qu'elles ne nous appartiennent pas. Et du coup, voilà, ça crée beaucoup de violence et beaucoup de peur. Par miroir, bah oui, forcément, si on ne peut plus avoir confiance en l'autre, bah, voilà, il y a des paranoïas qui se développent, on a peur, on ne fait plus confiance, etc. Ça, c'est un, voilà, ça traduirait un manque d'éthique. Et donc voilà, celui qui est porteur d'une éthique, ben voilà, c'est à ça qu'il s'engage, quoi, à devenir une protection pour soi-même, mais aussi pour les autres. Et c'est comme ça qu'on doit le voir. Et ensuite, alors évidemment, c'est utopique de penser que se couper des objets voilà, qui suscitent des poisons dans l'esprit, ça va être une réponse ultime. D'ailleurs, on ne peut pas prétendre se couper systématiquement des objets qui vont faire naître des poisons dans l'esprit. Et donc, quand ça arrive, on nous invite à utiliser des antidotes. C'est-à-dire, voilà, on observe qu'il y a tel poison qui prend de la place dans l'esprit. On peut encore voilà, pratiquer les antidotes dans le but, le but ultime, de faire en sorte que ces poisons n'apparaissent plus, mais dans un premier temps, d'abord de les diminuer. Et donc, par exemple, pour la colère, l'antidote qui est le plus traditionnellement utilisé, c'est de générer des pensées d'amour. Alors, ça paraît un peu Walt Disney comme ça, mais quand on dit générer des pensées d'amour, déjà, le terme amour, dans le bouddhisme, il a une définition qui est très précise, c'est... ça vient de maîtrise. Maîtrise, c'est la bienveillance. L'amour, ça veut dire souhaiter que l'autre soit heureux. On souhaite le bonheur de l'autre. Souhaiter que l'autre soit heureux. Et la compassion, c'est souhaiter que l'autre ne souffre plus. Donc là aussi, c'est très différent de l'amour tel qu'on l'entend. Enfin voilà, nous, le verbe français, amour, on utilise le même pour, voilà, j'aime la pizza ou j'aime mes enfants, c'est le même c'est le truc. Mais voilà, dans le bouddhisme, c'est une définition précise, c'est souhaiter le bonheur de l'autre. C'est ça, l'amour. Et c'est ce qu'on utilise comme antidote sur la colère, parce que justement, dans la colère, c'est l'inverse. C'est deux facteurs mentaux qui ne peuvent pas coexister. Ils ne peuvent pas exister en même temps dans l'esprit. La colère, ça se traduit justement par une absence d'amour. Une absence de souhaiter le bonheur à l'autre. En fait, c'est pas tant qu'on lui souhaite le malheur, c'est juste qu'on oublie. On ne prête pas en considération le bonheur de l'autre. On ne prend pas en considération le bonheur de l'autre. Et l'idée d'utiliser cet antidote, en fait, c'est tout simplement d'arriver à générer, au moment où il y a cet élan de colère, cette pensée « je te souhaite le bonheur ». Alors ça paraît un peu artificiel comme ça, mais on dit que si on arrive à générer ne serait-ce que cette pensée-là, pendant une fraction de seconde, ça va créer une brèche. Même une brèche d'une fraction de seconde, et que ça peut faire beaucoup cette brèche-là, dans le sens où déjà, on prend conscience qu'on est en colère. Et là, il y a une observation, on se voit en flagrant délit de colère, on se voit emporté par la colère. Rien que ça, ça peut modifier beaucoup de choses. Peut-être éviter ne serait-ce qu'un mot de trop. Voilà. Le mot de trop qui va créer le truc irréversible, quoi, la cassure. Il faut bien comprendre que tout ça, c'est bon à prendre. C'est-à-dire que le but d'utiliser l'antidote, c'est pas de croire que voilà, j'utilise l'antidote, bon bah ça marche pas, l'antidote il marche pas, on m'a berné, quoi. Non, l'idée c'est que on essaye de limiter les dégâts. Une brèche, deux brèches, voilà, ça ébranle la colère. Et évidemment, on est lancé, etc. Donc y a des choses qui vont passer, mais on peut encore filtrer certaines choses. Et ça peut faire beaucoup. C'est ça l'idée. Et donc voilà, je prenais l'exemple dans les chelings, c'est comme si on est en pleine descente sur un vélo et on n'a plus de frein. Ben, on a encore le guidon, on peut encore éviter quelques obstacles. Ben, c'est un peu ça l'idée de l'antidote. C'est tout ce qu'on peut éviter, on le fait. Et voilà, ça vaut le coup. L'idée, c'est pas de se dire, bah, je suis en colère, c'est foutu, et tout ça, et puis ouais, je me laisse aller complètement. Non, il faut encore faire beaucoup. C'est même là, à ce moment-là, qu'il faut être très vigilant. Donc cette pensée-là, je te souhaite le bonheur de l'autre, l'idée, c'est pas tant de ressentir de l'amour au point d'en... Faut pas rêver, quoi. Mais au moins de se voir en colère, créer cette petite brèche. Je te souhaite le bonheur, voilà, ça ébranle, hein. Ça peut beaucoup ébranler. Et puis alors pareil, il y a beaucoup d'antidotes quand alors, il y a trop d'attachement génère dans l'esprit, trop de crispation à une situation, trop d'attente, l'attachement, l'attente, l'avidité. Et on nous propose des méditations à faire quotidiennement. Donc là, il y en a pas mal. Moi, il y en a une que j'ai retenue du week-end dernier. C'était cette méditation-là, en fait, c'est une méditation qui est très simple pour faire diminuer l'attachement dans notre esprit. C'est se mettre en posture, comme on l'a fait tout à l'heure. Voilà, le dos droit, tranquillement, on est assis. Et puis, on porte notre attention sur la respiration et on laisse la respiration prendre de l'ampleur. Voilà, on prolonge l'inspiration, on prolonge l'expiration tranquillement. Et puis quand on sent que voilà, ça gagne en amplitude, on accompagne l'expiration d'une visualisation, c'est-à-dire quand on expire, on imagine que une nuée d'oiseaux s'échappe de nos narines et s'envole vers l'horizon, disparaît vers l'horizon. Et voilà, une nuée d'oiseaux noirs. Voilà, vraiment une nuée très, très dense d'oiseaux noirs qui s'échappe des narines, qui accompagne l'expiration, et on la voit disparaître tranquillement vers l'horizon. Et à ce moment-là, on imagine que cette nuée, voilà, représente notre attachement, notre avidité, nos attentes. Et quand on la voit disparaître, on garde à l'esprit la conviction que ça a disparu et qu'on se sent libéré. C'est un peu ça l'idée, voilà, c'est des petites techniques comme ça au quotidien. Et ça paye pas de mine, mais ça peut avoir un impact sur l'esprit. Parce que forcément, quand on va faire cette visualisation, il va y avoir un mot qui va revenir. C'est-à-dire, on va mettre une image sur notre attachement. Il y a quelque chose de notre attachement qui va prendre corps. Et donc, parfois, on peut voir ce qu'on lâche. On met un mot dessus. Je lâche telle avidité par rapport à ça, ou telle attente par rapport à ça. Donc, ça va nous revenir quand on va être confronté à telle ou telle situation. Ça va jusque-là? Et donc on a une trame de base pour les actes non vertueux et les actes vertueux. On va parler des 10 actes non vertueux et des 10 actes vertueux. Alors les 10 actes non vertueux, voilà, c'est une trame sur laquelle on peut s'appuyer pour vérifier, voilà, comment on se conduit. Donc il y a des actes par le corps, par la parole et par l'esprit. Donc les trois actes non vertueux du corps, c'est on va parler de s'abstenir de tuer, s'abstenir d'interrompre le processus vital d'un être, s'abstenir de voler, c'est-à-dire prendre ce qui ne nous a pas été donné, prendre ce qui ne nous appartient pas, et ce qu'on appelle la conduite sexuelle, c'est-à-dire tous les comportements sexuels qui sont susceptibles de générer de la souffrance chez l'autre. Et là-dedans, on inclut l'adultère. Donc ça, c'est pour les trois actes du corps. Ensuite, il y en a quatre de la parole. Alors, les quatre actes de la parole, c'est s'abstenir de mentir, de tromper quelqu'un, les paroles malveillantes, les paroles blessantes, la calomnie, c'est le fait de colporter des rumeurs fausses, voilà, des ragots faux sur quelqu'un, et enfin ce qu'on appelle les paroles futiles, le bavardage inconsidéré. Ça, c'est le fait de prendre en considération que la parole, du point de vue bouddhiste, c'est un outil qui est très précieux. C'est quelque chose de très précieux, mais que ça peut être utilisé à très bon escient, c'est-à-dire qu'on peut faire beaucoup de bien avec la parole comme on peut faire beaucoup de mal. Donc, il faut prendre en considération le caractère puissant de la parole pour lui redonner son caractère précieux, c'est-à-dire parler à bon escient, parler de manière... pas parler de manière inconsidérée, parce qu'on aime parler. Parce que, voilà, il peut y avoir... parfois, on se met à parler. Voilà, il y a des gens qui nous parlent. Et puis, à la limite, on se rend compte que même si on n'était pas là, ça ne changerait rien, parce qu'on a l'impression d'être un mur. C'est-à-dire, personne... on se transforme en moulin à parole, parce que tout simplement, on aime parler. Mais on ne prend pas en considération que ça peut faire naître des facteurs perturbateurs dans l'esprit des autres. Voilà, c'est toujours cette idée de prendre en considération l'autre. Donc, la parole... C'est puissant, en bien ou en mal, donc faut l'utiliser à bon escient. C'est un peu ça l'idée de bavardage futile. Et enfin, les trois actes de l'esprit. Trois actes de l'esprit, c'est ruminer des pensées malveillantes. Des pensées malveillantes, voilà, ruminer, ressasser. Qu'on appelle la convoitise. Alors la convoitise, c'est en rapport avec la jalousie du point de vue bouddhiste, c'est le fait de ne pas pouvoir se réjouir du bonheur de l'autre et donc du coup de le convoiter. On convoite le bonheur de l'autre, on convoite la situation de l'autre, on convoite le conjoint, la bagnole, la maison, enfin voilà, c'est ça ce qu'on appelle la convoitise. Et enfin, ce qu'on appelle les vues erronées. Donc les vues erronées, c'est avoir des vues fausses sur ce qu'on appelle la vacuité dans le bouddhisme. C'est mal comprendre cette notion de vacuité et la comprendre comme rien n'existe. Vacuité, donc rien n'existe, est ce qu'on appelle le nihilisme. À ce moment-là, on tombe dans une vue extrême, une vue fausse qui s'appelle le nihilisme, penser que rien n'existe. Ou au contraire, ne pas voir que les choses existent en interdépendance. Ce qu'on appelle la vacuité, en fait, dans le bouddhisme. La vacuité, c'est synonyme d'interdépendance. Ne pas voir que les choses, en fait, existent de manière interdépendante. Et donc, du coup, on leur prête une existence par elle-même, une existence propre. Alors voilà, je prends souvent l'exemple de l'arbre. Quand on prête une existence à un arbre, quand on utilise la désignation arbre, on désigne quelque chose par un arbre, on peut voir que l'arbre n'existe pas en soi. En fait, c'est un ensemble d'éléments en interdépendance. Un ensemble de racines, avec un tronc, avec des branches, avec des feuilles, qui dépendent du sol, qui dépendent de l'humidité, qui dépendent de la pluie, qui dépendent de l'air. Et cet ensemble-là, en interdépendance, on le désigne par un arbre. Mais il n'y a pas d'arbre en soi. Il n'y a pas quelque chose dans l'arbre qui s'appelle arbre, même au niveau atomique. Un arbre, c'est composé de molécules de carbone, etc. Mais on ne va pas pouvoir trouver une substance arbre. Pourtant, on va, par convention, par le côté pratique du langage, on va utiliser le mot arbre pour désigner cet ensemble-là. Mais l'éternalisme, mais, voilà, cette vue extrême de l'éternalisme, c'est de se faire piéger par la désignation et de penser qu'il existe quelque chose comme un arbre. Ça va ? Cette idée-là, c'est de penser que l'arbre existe par lui-même. On ne voit pas le côté interdépendant de cette forme, de ce système-là. Et on ne va pas s'arrêter là, on ne va pas s'arrêter à s'abstenir des actes négatifs. On va aussi adopter des actes positifs qui sont en fait tout simplement l'inverse. Ne pas tuer, protéger la vie. Ne pas mentir, dire la vérité, parler honnêtement, parler avec sincérité. Voilà. Ne pas voler, pratiquer la générosité. Voilà. Ensuite, planter toutes les graines, ce qu'on appelle les graines de vertu, c'est-à-dire s'efforcer de venir en aide aux autres de toutes les, voilà, toutes les manières possibles. Et ensuite, on va parler de la paramita de l'éthique. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'éthique, renoncer à l'intention de nuire aux autres. La paramita, en fait, c'est on va y ajouter ce qu'on appelle la sagesse. Et quand on parle de sagesse, donc quand on parle de paramita, on va parler de vacuité du sujet, vacuité de l'objet, vacuité du destinataire. Alors voilà, c'est comme ça qu'on l'explique traditionnellement. On dit traditionnellement être libre des trois sphères, libre du sujet, libre de l'objet, libre du destinataire. Et pour commencer, donc quand on parle de vacuité de l'objet, là l'objet en l'occurrence c'est l'éthique. Et qu'est-ce qu'on entend par vacuité de l'éthique ? Bah c'est exactement comme l'arbre. C'est comprendre que il n'y a pas quelque chose comme de l'éthique. Il n'y a pas quelque chose comme de la vertu, de la non-vertu. Pour qu'il y ait vertu, la vertu en fait c'est un fruit qui naît de causes et de circonstances qui se mettent en place. On va parler d'intention vertueuse qui conduit à un acte vertueux. Et donc le fruit de ça, ça sera éventuellement la vertu. Mais il n'y a pas quelque chose comme de la vertu. Ça veut dire que du point de vue bouddhiste, on ne peut pas considérer que quelque chose est vertueux ou non vertueux en considérant simplement l'acte en lui-même. C'est pour ça que le bouddhiste ne peut pas se prononcer, par exemple, très franchement sur l'euthanasie ou sur l'avortement, bien qu'on considère que l'acte de tuer est négatif. Il peut avoir des conséquences très négatives dans le fait d'interrompre un processus vital, mais on est obligé de considérer au cas par cas, dans une parenthèse donnée. Oui, l'avortement, ça implique de tuer un être, mais dans certaines circonstances, on peut considérer que c'est peut-être préférable. Voilà. Y compris pour l'euthanasie. Et ça, c'est. On peut pas se. On est obligé d'observer les choses dans une parenthèse donnée. On ne peut pas décréter qu'un acte est vertueux ou non vertueux, d'emblée. Donner une claque à un enfant, dans quelles conditions cet acte est non vertueux ? On est obligé de donner une claque à un enfant, si on donne une claque à un enfant, si un homme donne une claque à un enfant, on pourrait en déduire, il est méchant le monsieur. Voilà, c'est pas bien, il est méchant le monsieur. Mais après, il peut y avoir une intention derrière. C'est sûr que si c'est un acte qui est motivé par un poison de l'esprit, si c'est un acte qui est motivé par la colère, en fait, c'est une réponse à l'irritabilité, à la colère, etc., ça débouchera forcément sur un acte non vertueux. C'est-à-dire un acte qui n'aura pas le pouvoir de désillusionner et donc qui va créer de la souffrance pour soi-même et pour l'autre. Mais après, on peut considérer... un parent qui donne une claque à un enfant, mais avec une intention qui est tout à fait claire. Le fait de le protéger, lui montrer les limites, il se met en danger, lui montrer un cadre sur ce qu'il faut faire, pas faire. Et là, du coup, ça sera motivé par tout simplement de l'amour, l'amour pour son enfant. C'est ça qu'on appelle, il n'y a pas quelque chose comme de l'éthique, et c'est très important parce que ça va nous éviter de basculer dans le comportementalisme. Comportementalisme, le moralisme, tel comportement, c'est jugé bien, mal, et on fige les choses, et ça peut être dangereux. Par exemple, y a un exemple que donnait Lama Sherab, voilà, le mec que je fréquente, qui disait le comportementalisme, ben voilà, ça peut nous conduire à des extrêmes. Ça peut nous pousser à devenir intégristes. Dans le bouddhisme aussi, on peut virer intégriste. Si on ne comprend pas justement cette paramita de l'éthique, on ne comprend pas, si on fige les choses et qu'on en fait des absolus, par exemple, voilà, un homme décrète que voilà, il est choqué parce que sa femme ne porte pas le voile. Et donc du coup, il se met à porter le voile, il se sent mieux. Donc il décide de le faire appliquer à tout le monde parce qu'il décrète, ben voilà, je suis choqué de quelque chose qui est mauvais, donc je suis bon, donc je suis juste. Donc on construit une éthique sur la base d'être choqué. Et voilà. On applique des comportements comme ça. C'est bien, c'est pas bien. C'est voilà, ce qu'on appelle voilà, le fondamentalisme, comportementalisme. Voilà, on peut retrouver ça aussi quand on tombe dans justement pas voir que voilà, une éthique en soi. Ce qui est bien, ce qui est mal en absolu. Et par rapport à ça, donc là on a parlé de vacuité de l'objet, et on va aussi parler de vacuité du sujet, vacuité du destinataire. C'est. Parvenir à voir que c'est pas parce qu'on pratique l'éthique qu'on doit se définir par rapport à l'éthique, c'est-à-dire se définir comme quelqu'un de pur, comme quelqu'un de juste, comme quelqu'un de bon. Parce que tout l'enjeu de la paramité de l'éthique, c'est de justement nous faire comprendre la véritable nature des choses. Il faut comprendre que quand on réalisera la nature des choses, quand il n'y aura plus de confusion, en fait, il n'y aura plus lieu de pratiquer une discipline. En fait, on agira en conformité avec la nature des choses. Donc, en fait, ça ne sera plus une pratique, ce sera on accomplira l'éthique. Mais ce ne sera plus intentionnel. Et c'est ça, c'est à ça que veulent nous emmener toutes ces méthodes. Aujourd'hui, on s'entraîne, on applique, on pratique. Mais ce n'est pas parce qu'on pratique l'éthique qu'il faut s'estimer. Voilà, je suis un pratiquant de l'éthique, donc je suis pur, donc je suis juste. Donc, parce que dans cette estimation de nous-mêmes, si on s'estime pur, juste, etc., voilà, s'identifier à un concept de pureté, et ben forcément on va juger l'autre. Il n'a pas ce comportement, donc il est impur, donc il est injuste, donc il est ceci, cela, donc il est mauvais. Voilà, il faut voir voilà, notre pratique de l'éthique libre des élaborations par rapport au sujet, libre des élaborations, des estimations par rapport au destinataire. Voilà, on pratique l'éthique parce que on sait que tant qu'on n'a pas réalisé la sagesse, forcément on va y avoir des accidents, on va se tromper. On ne va pas pouvoir avoir une totale justesse parce qu'on ne voit pas la nature des phénomènes. Mais ça va nous emmener vers plus de clarté. Mais l'aboutissement de l'éthique, c'est justement l'absence d'éthique. Il n'y a plus d'éthique. On va au-delà de l'éthique, on va au-delà d'une discipline, parce qu'en fait, le fait de voir les choses telles qu'elles sont va nous amène à nous comporter, à nous conformer à la nature des choses. On accomplit l'éthique sans intention. On est en conformité avec les choses. Et ce qu'on appelle, ben là, à ce moment-là, l'éveil. Paramita de l'éthique. Enfin, c'est pas encore l'éveil, mais c'est pas loin. C'est ce qu'on appelle le concept des 10 terres dans le bouddhisme. Voilà, on va parler de la progression sur le chemin de l'éveil en marquant des étapes. Voilà, et on va parler de ces étapes-là, voilà, cette progression. Parfois, dans certaines écoles, on la traduit par 10 terres, 10 étapes. Voilà, ben, l'aboutissement de l'éthique, la paramité de l'éthique, quand on agit en conformité avec la bodhicitta, avec la nature des choses, c'est qu'on accomplit la paramita de l'éthique. Et à ce propos, il y a une histoire que Rengo Rinpoche raconte souvent. Donc c'est une histoire bouddha, elle est marrante. C'est deux moines jardiniers dans un monastère zen. Et il y en a un qui voit des escargots qui traversent la route. Donc il les prend un par un et puis consciencieusement, il les met sur le bord de la route pour pas qu'ils se fassent écraser. Et puis l'autre vient le voir, il fait « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Ça, ben, je lui dis, oh, voilà, je les mets sur le bord de la route, on ne sait jamais, hein. Quelqu'un peut passer, les écraser, tout ça. Je lui dis, mais tu fais n'importe quoi, c'est complètement inconsidéré, tu ne connais pas les conséquences de. Tu influes sur leur karma, alors qu'en les mettant là, si ça se trouve, tu les prépares à une mort encore pire. Tant que tu ne connais pas les conséquences, arrête quoi. Donc lui, non, la bodhicitta, tout ça, puis ils se disputent, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et donc finalement, ils finissent par aller voir le maître de la communauté, maître du master, voilà. Donc chacun présente la situation. Le premier dit, bah, voilà, j'ai metté les escargots sur le bord de la route, j'ai cru bien faire, parce que, voilà, pour leur éviter de se faire écraser. Donc, le maître lui dit, oui, tu as raison. Okay. Puis l'autre dit, mais non. Maître, on m'a toujours dit que tant qu'on ne connaît pas les tenants et les aboutissants du karma, on n'a pas à influer sur le karma, il vaut mieux pas intervenir parce que finalement on met son grain de sel et puis on met les pieds dans le plat. Maître l'écoute et dit oui, tu as raison. Alors ils repartent avec ça. Et puis il y a la femme du maître qui avait écouté la conversation, qui vient le voir et qui lui dit mon cher, tu m'as toujours dit que. Quand deux personnes ont des opinions différentes, elles ne peuvent pas avoir toutes les deux raisons. Oui, tu as raison. Et dans l'histoire, voilà, ce que ça traduit, c'est que bah, les deux moines, ils étaient tous les deux dans l'éthique. Ils étaient tous les deux dans une bonne intention. Et là, on en revient à quelque chose qui est, voilà, qui est fondamental, comme pour la généralité, l'éthique. Qu'est-ce qui va découler sur un acte vertueux, c'est une intention vertueuse. C'est-à-dire une intention qui prend en considération l'autre. Qui prend en considération, voilà, voilà, c'est l'intention vertueuse qui conduit à un acte vertueux et c'est ça qui va donner un fruit qu'on appelle la vertu. On en revient toujours à l'intention Mojo Krimpoche, par exemple, il nous disait que en tant que méditant, c'est cette intention c'est que, sur laquelle il faut être très vigilant. La méditation, c'est ce qui va nous permettre justement d'être au clair avec nos intentions. Qu'est-ce qui motive tel acte? Et l'aboutissement de l'éthique, ça va être « je n'ai plus de honte ». Cette phrase de Mojo Krimpoche, donc pas Mojo Krimpoche, mais voilà, le premier Mojo Krimpoche qui disait l'aboutissement de l'éthique, c'est « je n'ai plus de honte ». Pourquoi ? Parce que je suis clair avec mes intentions. Alors effectivement, je peux être failli, je peux faire des erreurs, mais par contre, au niveau de mes intentions, je suis infaillible. Je sais ce qui a motivé tel acte. Je suis clair avec mes intentions, donc je n'ai plus de honte. C'est ça qui, voilà, qui l'aboutissement de pratiquer l'éthique, c'est qu'on n'a plus de honte. On peut nous remettre, voilà, on peut se remettre en question, on peut, voilà, on peut entendre, mais par contre, on n'a aucune honte parce qu'on pensait bien faire. On avait, voilà, on a pesé le pour et le contre et on a choisi d'agir en conformité avec telle ou telle intention. Et on est clair par rapport à cette intention. Et ça, c'est la méditation qui va nous apporter ça. Donc la méditation véritable, c'est-à-dire le fait de plus on s'entraîne à être vigilant, plus on décèle derrière un acte, voilà, quelle a été l'intention qui a motivé. Il nous disait, voilà, pourquoi on fait une prière, voilà, quand on pratique le bouddhisme de manière religieuse, comme voilà, les moines dans un monastère, ou voilà, quand on veut pratiquer le bouddhisme de manière formelle, il y a une prière qu'on récite avant de prendre un repas. Avant chaque repas, on récite une prière, et pendant cette prière, en fait, on pense. Voilà, on développe une attention par rapport à notre rapport avec la nourriture. Et dans le bouddhisme, on considère que. Enfin, le Bouddha nous invite à considérer la nourriture qu'on absorbe comme un médicament, ni plus ni moins. C'est-à-dire quelque chose qui nous sert à nous maintenir en bonne santé, en bonne forme. Voilà, ce que nécessite le corps. Et voilà, il disait, bah, si on absorbe de la nourriture dans l'intention d'avoir un beau teint, par exemple, ou d'avoir des gros muscles, bah, ça, c'est pas une motivation qui va nous aider sur le chemin de l'éveil. Ça peut, voilà, ça peut être légitime, mais c'est pas, ça n'aura pas le pouvoir de nous mener à l'éveil. Parce que, voilà, il y a une intention qui est de l'ordre du mondain. Après, ça peut être légitime, hein, à chacun de voir, mais par contre, voilà, dans notre motivation, en tant que pratiquant, voilà, dans notre motivation d'éveil, on doit considérer la nourriture comme un médicament, ni plus ni moins. Alors après, s'il y a du plaisir à manger, bah, c'est la cerise sur le gâteau, on va dire. Mais pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de pratiquants bouddhistes qui choisissent de devenir végétariens? Le Bouddha, voilà, n'a pas enseigné qu'il fallait devenir végétarien. Il a dit, voilà, qu'il fallait prendre en considération la souffrance de l'autre. Et après, dans notre mode d'alimentation, il se peut qu'on ait besoin de viande. Le Dalai Lama, bah oui, voilà, son médecin lui a recommandé de ne pas avoir un régime végétarien strict parce que son corps ne pourrait pas supporter, donc de manger de temps en temps de la viande. Mais c'est différent de manger de la viande. Pensez qu'on a besoin de manger de la viande tous les jours, 7 jours sur 7, à chaque repas. Parce que là, en fait, ça voilà, quel est notre rapport avec la nourriture? Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Ou est-ce qu'en fait, on mange de la viande tout simplement parce qu'on aime ça? Parce qu'en Occident, le fait de manger, voilà, qu'on aime manger de la viande, ça a des conséquences. Voilà, à grande échelle, c'est voilà, ce qui a produit les élevages intensifs, les élevages industriels, c'est-à-dire que non seulement on tue, à large échelle, mais en plus c'est pas seulement la mort de l'animal, c'est des vies de souffrance. C'est-à-dire que les animaux en élevage intensif, c'est de la naissance à la mort, c'est des vies abominables, quoi. C'est des camps de concentration pour animaux. Et c'est à ça, c'est pour ça qu'on a, voilà, beaucoup de bouddhistes essayent de voilà, se tournent vers le régime végétarien, parce que bah voilà, aujourd'hui, nous on est dans des conditions où on peut manger de manière très équilibrée, de manière très saine, sans forcément manger du poisson ou de la viande tous les jours. Ce qui n'était pas forcément le cas au Tibet. Au Tibet, il y avait très peu d'agriculture, et donc du coup, bah, la nourriture, c'était essentiellement carnée. Et c'est difficile pour un Tibétain de manger végétarien. Mais voilà, il y a cette réflexion. Quelle est la motivation? Quel est mon rapport avec la nourriture? Quelle est la motivation dans le fait de me nourrir? Est-ce que c'est supporter mon corps, lui apporter tout ce dont il a besoin, ou voilà, je mange un considérant tout simplement parce que j'aime ça. Est-ce qu'il y a des questions? Oui.
C'était par rapport à la couleur et au couvert, par rapport aux guidins qu'on sait, qui sont pas forcément, ils sont quand même un peu précis.
Nathalie, tu peux parler plus fort, s'il te plaît.
Oui, je disais, c'est par rapport à la colère et au courroux. Les guidames qu'on voit sont courroucées,
oui,
et avec,
oui,
des visages très sympathiques. Juste clarifier un petit peu la position du courroux par rapport à la colère. Alors, peut-être,
oui,
c'est
alors,
dans l'intention,
oui,
ou dans...
En fait, donc je ne sais pas si courroux, ça a la même définition pour nous, mais en tout cas dans le bouddhisme, donc on fait bien la distinction entre colère et courroux. En fait, le terme tibétain pour colère, c'est kong-kreu. Kong-kreu et kreu, c'est courroux. Mais dans colère, kong, ça veut dire intérieur. En fait, c'est un courroux intérieur. C'est ça qu'on traduit comme colère, alors que courroux, c'est juste le terme creux, courroux. Et la grosse différence, en fait, c'est que ce qui se manifeste, en fait, dans la colère, c'est une colère intérieure. Alors que l'expression du courroux, en fait, même si ça prend le visage, ça peut prendre un visage très menaçant, un visage très, très voilà, courroucé. Ce qui motive le courroux, c'est la compassion. C'est ça la différence. Derrière la colère, il peut y avoir la peur, l'aversion, les choses comme ça, qui sont des distorsions de l'esprit, qui sont des poisons de l'esprit. Alors que dans le courroux, ça peut prendre la même apparence, c'est-à-dire tranchante, incisif, colérique. Ça peut prendre une apparence colérique, mais en fait, c'est pas du tout de la colère. C'est-à-dire que c'est motivé par ce qu'on appelle la compassion. Courroux, c'est une expression courroucée de la compassion. Dans le, voilà, c'est la différence.
je me rappelle que Lama Tsultri m'avait un jour parlé de la colère et il avait parlé d'un exemple d'un lama de Marine Poche, je ne sais plus, qui avait été... Il y avait quelqu'un dans l'assistance qui posait des questions qui devenaient de plus en plus agressives. Et Lama Tsultri me parlait de ce lama de Marine Poche qui, à un moment donné, s'est mis en colère, alors colère entre guillemets, c'était du courroux apparemment, pour stopper cette personne et le faire sortir. Parce que c'était la seule réponse que cette personne agressive pouvait entendre et pouvait recevoir pour arrêter cette violence verbale et voilà. Et ça me fait penser que effectivement, pour apaiser une situation, une relation, une situation, une attitude, on peut faire appel au bourreau. Hein, je n'utilisais pas ce mot, mais effectivement, c'est peut-être plus juste. Pour faire comprendre à certaines personnes que ça suffit et qu'il faut qu'ils arrêtent d'être. Alors, il y a plein de possibilités, mais. Faut qu'ils arrêtent d'être violents, brutaux, harceleurs, etc. C'est la seule chose que certaines personnes peuvent comprendre.
Bah oui, 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 c'est pour ça hein, que la compassion, elle peut pas justement, la compassion ne peut pas s'exprimer seulement de manière douce, si parce que si on veut pouvoir aider tous les êtres, il y a des êtres dont la justement, ce langage de la compassion douce ne marche pas, c'est-à-dire il n'est pas compris, etc. Donc voilà, la compassion peut prendre plein d'aspects, y compris l'aspect courroucé. Mais du coup, il faut être très très honnête, voilà, en fait ce que ça nous invite à faire. Alors après, que tel Rinpoche ait agi comme ça, ou tel maître et tout ça, oui c'est sûr, s'il a le titre Rinpoche, on peut penser que c'est du courroux. Mais après, rien ne nous le... Voilà, rien ne nous le prouve. Hein. Par contre, on peut être très honnête par rapport à soi-même. Ça, on ne peut pas se mentir. C'est-à-dire, notre façon de réagir à une situation, est-ce qu'elle est sous l'emprise de la colère ou est-ce qu'elle est sous l'emprise de la compassion? C'est-à-dire, compassion dans le sens, cette situation va générer de la souffrance pour moi, pour l'autre. Voilà, et c'est ça que je vise. Mais il n'y a pas de colère dans le... Dans le courroux, il n'y a aucune colère. C'est pour ça qu'on parle souvent de la... l'exemple qui est donné, c'est les parents vis-à-vis de leurs enfants. Quand ils se montrent durs, quand ils se montrent fermes, quand ils se montrent... voilà, il n'y a pas à négocier. Voilà, c'est par amour pour son enfant. Il n'y a pas nécessairement de la colère. Justement, ça peut être... Mais pourtant, ça peut être perçu très violemment. Hein, le petit bout de chou en face, voilà. Mais voilà, c'est pour qu'ils comprennent. C'est pour qu'ils comprennent. Et il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de trace de peur, il n'y a pas de trace de, ouais, d'aversion. De... En fait, dans la colère, on se sent toujours menacé. Quelque part, s'il y a colère, c'est que quelque part, on se sent menacé. D'une manière plus ou moins grande, mais il y a toujours un sentiment de menace. Alors que, on va dire qu'un maître... Quelqu'un qui, justement, la première caractéristique de l'éveil, c'est justement de réaliser l'absence de menace. Quand le Bouddha fait ce mudra de porter prendre la terre à témoin, et il réalise en fait le caractère inébranlable. Pourquoi inébranlable? Parce qu'il réalise l'absence de menace. Il réalise ce qu'il est profondément, et que cette nature est inébranlable. Elle est, c'est même pas invincible. Il n'y a même pas quelque chose qui sera invincible, c'est il n'y a rien qui puisse porter atteinte à cette paix. C'est une paix inébranlable. Il n'y a plus de menace, donc en fait, c'est il réalise l'absence de colère. Il n'y a plus d'ennemis. Et à ce moment-là, après, on peut prendre n'importe quel visage, mais voilà, dans la colère, il y a toujours une menace. S'il n'y a pas de menace, dans le courroux, il n'y a pas de menace. Voilà. Dans le courroux, on ne se sent pas menacé. Donc on peut se permettre d'être très lucide. On n'est pas du tout emporté par quelque chose. Donc les mots qu'on dit, les actes qu'on fait, ils sont mesurés, ils sont pesés, même s'ils ont un visage peut-être très violent, très brutal, etc. Il n'y a pas de non-vertu qui va être... vous êtes planté, quoi. Je pense qu'on peut s'arrêter là. On va faire la dédicace. Par cette vertu, puissais-je promptement réaliser le mandra et sans l'exclusion d'un seul, établir en cet état tous les êtres. Merci.
Merci. Merci.